Voilà, alors, des questions. Marc et René, je vais vous laisser répondre aux questions. Voilà,
Voilà,
c'est à vous.
il y a un certain nombre de questions qui
Bonsoir.
se présentent. Bonsoir à vous
Oui,
tous.
bonsoir.
Alors, la première question, ses ancêtres, ce pourrait être nous? Point d'interrogation. C'est une question qui pourrait avoir pas mal de ramifications, on va dire. Mais en tout cas, les ancêtres, non, ça n'est pas nous, dans le sens où, effectivement, on peut croire, par exemple, à la réincarnation ou pas. On peut aussi penser que nous portons en nous des mémoires cellulaires qui sont extrêmement anciennes et que, par conséquent, on pourrait. Dans des expériences, par exemple, dans un travail de rebirth, lorsqu'on vit des moments, soit de vie antérieure, peut-être est-ce que, vie antérieure ou pas, ce pourrait être de vieilles mémoires ancestrales. Mais en tout cas, pour répondre de façon courte à la question, non, ces ancêtres, ce n'est pas nous. C'est vraiment l'énergie de ce qui a été vécu et les mémoires qui nous ont été transmises. Alors, il y a, est-ce que chaque rencontre a un potentiel?
En fait, chaque rencontre correspond aussi à un appel, une demande inconsciente de nos ancêtres. Même si c'est de courte durée, chaque rencontre avec un autre humain met en potentiel tout un ensemble de potentialités. Et je me souviens quand on a travaillé avec un naturopathe en Arizona, qui nous a dit que l'organe foie garde toutes les mémoires de tous les échanges de liquide. Donc on est à mémoire cellulaire avec chaque rencontre, mais ce n'est pas forcément le potentiel de couple qui va durer. Mais il y a un potentiel de nettoyage et
Mais moi, je crois aussi qu'il y a le potentiel, on le fait, c'est nous finalement qui mettons l'accent sur ce que nous sommes capables de créer. C'est notre potentiel de créativité qui fait que le couple prend des tonalités, une histoire et un projet surtout, et que nous, un projet qui nous dépasse. C'est ça, il y a un processus dans lequel nous sommes embarqués en tant que couple et qui nous dépasse complètement. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est cette vision-là qui est importante. Alors, une autre question. Ah, il y a une question intéressante qui nous vient de Franck et qui dit: je n'accroche pas. Les ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est nous qui sommes vivants. Je pense que cette notion de couple est d'ores et déjà dépassée. Désolée. Alors, je pense que, effectivement, les ancêtres, ils ont fait ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas disparu. Chaque être humain porte dans chacune de ses cellules l'histoire de l'évolution de toute l'humanité depuis le Big Bang, hein, tout ce que, la vie a développé. L'arrivée bien avant l'arrivée des hommes, nous portons cette évolution collective dans chacune de nos cellules. Et donc chaque être humain porte cette histoire-là, cette mémoire-là, qui est une mémoire universelle. Et chaque être humain porte l'histoire de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, que l'on soit en couple ou pas. Nos rencontres amicales, par exemple, qu'elles soient courtes ou longues, c'est aussi une histoire de collaboration, de couple et d'échange. Voilà, Franck, j'espère que j'ai répondu à votre question. Existe-t-il?
Alors, René, Marc, il y a plusieurs questions qui se rejoignent. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir accès à son arbre généalogique. Est-ce impératif de connaître tout cela pour pouvoir avoir une vie de couple épanouie?
Non, pas du tout. Je pense qu'on peut ne pas avoir envie de consulter son arbre généalogique. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à leur arbre généalogique parce que il y a eu Par exemple, les personnes qui ont émigré, qui n'ont plus accès à des documents. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes déplacées par des événements tragiques et elles n'ont plus accès à ces documents. Donc, que l'on ait une histoire, qu'on ait envie ou pas d'aller regarder dans son histoire transgénérationnelle, on a toujours des problématiques qui sont des problématiques présentes. Et c'est à partir de ces problématiques-là qu'on peut avoir la conscience de l'ancestralité. On n'est pas obligé d'aller étudier son arbre transgénérationnel. On sait que nos problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes qui ont une résonance dans le passé. Donc finalement, chaque personne qui consciemment se préoccupe de transformer ses émotions dans la vie de couple ou dans la vie amicale ou dans la vie professionnelle, parce que quelquefois aussi on se choisit professionnellement une famille et les relations humaines au sein de cette famille, que ce soit l'armée, les médecins avec l'ordre des médecins, c'est une grande famille, on a des relations humaines qui nous ramènent quelque part à des mémoires cellulaires extrêmement anciennes. Donc si on a cette conscience-là et qu'on nettoie plus grand et plus large que nos petits problèmes à nous, on participe à ce qu'on appelle le mouvement de la vie universelle, le processus de la vie universelle. Alors, d'autres questions ? Attends. Là, bon, je crois que j'ai répondu à cette question-là, à Cerise qui dit que comment faire, mon père est un enfant abandonné et ma mère, son père a un nom rare, il n'y a pas d'autres gens qui portent ce nom-là, comment trouver la raison de mon couple? Mais la raison de votre couple, vous la trouvez au jour le jour, parce que finalement c'est le projet que vous donnez à ce couple-là. On n'a pas besoin de s'appuyer sur l'ancestralité obligatoirement pour trouver du sens à son couple. Je crois que chaque couple porte en lui le sens du projet qu'il donne à ce couple-là, à cette union-là.
D'accord. Une autre question qui revient plusieurs fois. Comment faire quand il y a une personne dans le couple qui veut travailler sur lui et pas l'autre? Comment évoluer? Est-ce qu'il y a forcément un décalage? Et Brigou pose la même question avec l'ajout, est-ce que je peux réparer toute seule pour les deux?
Oui, ça arrive très souvent dans nos cours que un des deux personnes travaille dans le couple et l'autre n'est pas en même vitesse. D'ailleurs, René et moi, c'est René qui a toujours découvert des techniques pour dépister les choses avant. C'est elle qui a découvert EFT, en fait. Et donc, c'est ça, c'est pas toujours facile, mais quand on travaille pleinement d'élever son niveau vibratoire, le travail se fait en couple sans qu'il y ait des paroles ou une discussion entre les deux, et on a vu le couple se transformer. Quand un des membres des couples, souvent les femmes, prend les pistes de le travail sur soi-même et déprogramme avec EFT ou avec un autre outil, ces mémoires limitantes qui sont construites dans la vie actuelle, mais aussi qui sont un résultat de la transmission ancestrale. Et on a vu vraiment des libérations, des renouements de dialogue et des changements dans le couple sans que les deux parties de couple travaillent dans un premier temps.
Mais je crois, pour répondre à cette question, parce que c'est une question extrêmement importante et que l'on voit fréquemment autour de nous, on entend beaucoup cela, avec l'impression que de toute façon, c'est un puits sans fond, qu'on travaille, mais que l'autre est accroché à ses repères et n'a pas envie d'avancer, semble-t-il. Mais ce qu'on oublie, c'est que en travaillant sur nous-mêmes, il y a un travail de transformation qui se fait dans la relation. Et on en a de multiples exemples. Si un des deux membres du couple travaille sur lui-même, sans désir de changer l'autre, il y a quelque chose qui change dans la relation du couple.
D'accord, ça rejoint une notion de responsabilité en fait, quand chacun reprend les rênes de sa vie au milieu de la relation.
Absolument, et ça, c'est quand même une notion très très importante, c'est qu'on ne peut pas faire changer l'autre et qu'on n'a pas à le faire. Il y a à respecter l'autre profondément. Ce que l'on peut nettoyer avec EFT ou avec d'autres outils énergétiques comme l'OEH, c'est de travailler la trame entre deux personnes, c'est-à-dire en fait la relation qui existe. Alors, on ne viole pas l'autre puisqu'on ne travaille pas sur l'autre à distance, ou on dit en anglais surrogate, je ne sais pas comment on dit en français, à distance, je crois. Et c'est ça, on n'a pas l'impression de travailler pour faire changer l'autre. On travaille simplement sur ce qui s'est mis en chemin, la trame qui existe entre deux personnes. Et EFT est un outil extrêmement intéressant pour nettoyer la trame.
Alors justement, c'est la question de Nora. Y a-t-il un travail en EFT à faire pour les générations suivantes ?
Oui, bien sûr. De toute façon, rien n'est séparé. Tout est interconnecté. Ça, on l'entend beaucoup en ce moment. On sait très bien qu'avec la physique quantique, on sait très bien qu'il n'y a pas de séparation sur le plan universel. Donc, à partir du moment où un changement s'effectue en vous, il va se transmettre, mais pas seulement à votre descendance ou pas seulement à la fratrie, par exemple. Mais nous sommes tous reliés à quelqu'un d'autre à des centaines de milliers d'autres personnes qui sont reliées à nous vibratoirement autour de la planète. Nous ne les rencontrerons jamais, mais par contre, si nous changeons quelque chose en nous, nous allons libérer d'autres personnes autour de la planète. Nous sommes intimement mêlés au tout.
Bien sûr, puisque tout est un et tout est connecté depuis le début.
Voilà, mais on le sait intellectuellement, sauf qu'on n'arrive pas à le vivre parce que c'est tellement énorme, tellement fabuleuse cette notion-là. Ça élargit tellement nos horizons qu'on a peur de perdre nos petits repères personnels et que donc on a un petit peu tendance à vouloir rétrécir le champ des changements possibles.
D'accord. Apparence 2013 pose la question en rappelant que elle ou il vit seul depuis 19 ans. Si on n'a vraiment pas envie de vivre en couple, avec un choix conscient d'être seul, est-ce que cela peut avoir des répercussions sur nos énergies ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, très souvent, quand on a cette envie de vivre seul et de vivre bien en étant seul, y a très souvent une explication transgénérationnelle, mais ça n'a aucune importance si on ne va pas la contacter, cette information-là. Ce qui est important, c'est qu'on se sente bien soi-même, qu'on travaille sur soi pour être heureux dans la vie, puisque finalement, on est là pour ça. On est là pour glorifier la vie et pour développer notre créativité. Donc effectivement, on peut être seul, vivre seul, être heureux d'être seul. Mais dans nos rencontres humaines, y a des couples qui se forment, qui sont ponctuels, mais une relation amicale, c'est aussi un couple. C'est une relation qui va de l'un à l'autre. Cette notion-là d'échange est extrêmement importante et on peut la voir quand on est célibataire et heureux de l'être, bien sûr.
Oui, on collabore avec l'univers, il y a une espèce de collaboration et un cheminement qui se fait dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément pour tout le monde d'être en couple, le voie de l'évolution.
Voilà, quand on parle du processus de la vie, du processus général de la vie, de ce processus universel qui est un mouvement de toute l'humanité, de tout ce qui existe, pas seulement des humains, toute la nature y participe aussi, d'aller vers du nouveau, vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, ça en fait partie. Toutes nos petites transformations personnelles ont un impact sur la transformation de la conscience de l'humanité entière. Moi, je trouve que c'est quand même un projet extraordinairement porteur.
Alors, bien sûr. Alors, Sandia répète sa question, ça fait plusieurs fois. On a beaucoup de questions, Sandia, on essaie de les prendre dans l'ordre. Alors, est-ce que le couple, c'est forcément deux? Quel est votre regard sur la fidélité? Enfin, quel est le regard dans ce cadre, dans ce contexte de l'arbre généalogique sur la fidélité?
Bien, à partir du moment où on est à deux, on forme un couple. On prend la décision de vivre ensemble au jour le jour, sous le même toit, en ayant un projet commun, on forme un couple. Alors, la question de la fidélité, qu'elle soit sexuelle ou pas, c'est un autre projet. Tout dépend de ce que l'on porte en soi, de l'histoire des couples qui nous ont précédés. Il faut juste être honnête avec soi-même et puis prendre conscience de ce que l'on veut. Si on est en couple et que la fidélité ne fait pas partie du contrat de ce couple, pourquoi pas, à condition que ce soit quelque chose de clair, que ça fasse partie du projet de couple, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est la sincérité et la clarté de ce que l'on veut vivre à deux ou pas.
Moi, je suis né dans cette génération de Baba Cool où on a vécu ces années free love. J'étais amoureux de toutes les femmes et je ne concevais pas me limiter à une seule femme dans ma vie. Et finalement, c'est l'aspect énergétique quand on a commencé à travailler la notion de l'énergie avec René. Ça m'a fait des prises de conscience que quand on est engagé sur un chemin énergétique, c'est pas pour tout le monde, si on n'est pas engagé sur une voie spirituelle ou énergétique, c'est moins de conséquences et on peut avoir un autre engagement vers l'autre sans que ce soit libre en quelque sorte. Mais quand on mélange nos énergies un petit peu partout, parce que l'acte sexuel, c'est un acte qui mélange les énergies sur un plan vibratoire, on n'est plus dans la même vibration avec l'autre. Donc pour moi, personnellement, je ne peux pas vivre cet aspect-là de couple, d'être un couple et avoir plusieurs partenaires. C'est, vibratoirement, c'est une réalité qui ne me convient pas.
Voilà, mais ça peut convenir à d'autres.
Ça peut convenir à d'autres. Donc le libre arbitre existe.
Alors, je vois une question aussi, quand il y a, c'est Elora qui demande cela, quand il y a dans les ancêtres, il y a eu des enfermements, des tortures, des morts violentes, qu'est-ce que cela peut engendrer? Ben, ça peut engendrer pas mal de choses, et pas fatalement d'ailleurs des choses difficiles. C'est vrai que quand il y a eu des chocs violents, des événements traumatiques profonds pour chez des ancêtres. On est porteur de cette mémoire-là, mais on a le choix d'en faire quelque chose d'actif et de transformant ou quelque chose d'enfermant. Mais nous avons tous ce choix-là. Par rapport à nos histoires, nous avons tous ce choix-là. De toute façon, les événements traumatiques sont des énergies. Et nous avons la possibilité de travailler sur les énergies. Toutes les émotions, tout ce qui a existé sur le plan émotionnel, les souffrances et les joies, c'est de l'émotion. Donc, on peut faire circuler ces émotions-là avec EFT ou avec d'autres techniques d'ailleurs.
Donc, il n'y a pas de gravité en sort. En soi, parce qu'on est dans le vivant ici maintenant et on n'est pas forcément au courant de tout ce qui est passé avant, mais le fait de travailler régulièrement, on rentre dans un processus de nettoyage et on nettoie les générations futures, passées, et on est plus en plus dans l'instant présent. Donc il est primordial de travailler avec quelque chose comme l'EFT.
Alors je vois aussi une question, quand il y a dans les ancêtres, non c'est pas ça, quelqu'un me pose une question par rapport à des dates. Alors, est-ce est-ce que tu peux retrouver la question, Marc? Elle est partie plus haut, je crois. Voilà.
Ça bouge sur l'écran, pardon.
Et si vous travaillez uniquement à partir de la date de naissance ou
voilà,
si vous
c'est
avez
ça.
D'autres approches?
Oui, il y a d'autres approches, c'est-à-dire que toutes les dates dans un... Moi, je vous conseille de lire les ouvrages du docteur Salomon Selam, qui a traité ces sujets avec, beaucoup de brio et beaucoup d'intelligence et beaucoup de profondeur. Donc, tous ces livres sont extrêmement intéressants sur le rapport à l'ancestralité, aux mémoires. Il y a les dates de naissance, mais il y a aussi les dates de mariage, il y a les dates de décès, il y a les dates de fausse couche, les dates d'IVG, par exemple, les dates de divorce. Et puis, il y a aussi le décryptage des noms, des prénoms. Enfin, vraiment, les nombres sont des énergies qui nous mettent en relation les uns avec les autres à plusieurs niveaux. Donc, tout est utilisable. Ça ne se borne pas, en tout cas, à la date de naissance.
Alors,
d'accord. Alors, il y a une question. Comment se préparer énergétiquement à une belle rencontre? Et ça me rejoint à ce que tu me disais, Marc, avant la conférence, qu'en fait, on pourrait se fixer une intention ce soir. Chacun peut fixer une intention pour le couple ou pour une rencontre ou pour la planète. Et on pourrait ancrer cette intention, enfin l'envoyer dans l'univers avec le tambour.
Ah oui, tout à fait.
Tout à fait, oui. Oui, c'est possible. Mais comment se préparer à une belle rencontre? Je crois que la meilleure voie possible, c'est celle du travail sur soi. C'est de clarifier ses émotions, c'est d'accepter qui l'on est, de vivre avec qui l'on est et de vivre avec la personne que l'on va devenir aussi, en ayant de plus en plus conscience de ce dont on est porteur, tous. Donc c'est finalement de développer l'estime de soi et de travailler dans la gratitude, de travailler dans la joie, de travailler dans un désir de paix avec soi et avec les autres. Alors?
Oui, retomber en amour de soi-même.
Retomber en amour de soi, oui.
D'où le phrase « je m'accepte complètement et profondément » qui prend un temps d'être accepté. Hein, quand on commence avec le tapis, je m'aime, de pouvoir prononcer ce mot-là, je m'aime, c'est parfois difficile. Donc, il est important d'intégrer cet amour de soi-même qui va nettoyer tout un espace vibratoire autour de nous. Et par la loi d'attraction, on va forcément attirer le partenaire qui nous convient énergétiquement. Alors, j'ai vu une question tout au début par rapport au tambour. Les vibrations de tambour a bien plu. Et aussi, est-ce qu'on a besoin d'un tambour? Y a-t-il des tambours particuliers? Donc, chaque tambour est un tambour particulier en quelque part. On peut même nettoyer un maison avec des casseroles. Hein, c'est l'énergie de métal, le son de métal. Les Tibétains, ils utilisent le bol et ça fait circuler les énergies yang stagnées dans la maison. Donc, si votre maison est un peu endormie, vous pouvez taper sur les casseroles avec une intention de nettoyer et ça fait lancer la vibration. Mais mon tambour personnel, il est construit sur mesure. J'ai construit par rapport à ma taille et la forme géométrique correspond à ma taille. Donc, il a cheminé avec moi depuis 15 ans. Et il y a, pas parler de pouvoir, de magie, ou de choses trop mystico New Age, mais il y a une mémoire qui s'installe dans chaque tambour quand on s'approprie son tambour. Moi, j'ai créé des enregistrements dans la boutique et dans le bonus quand vous achetez des packs, il y a un des tambours tapines, des techniques que j'ai développées avec un monté par le chakra et on fait un tapine accompagné par le tambour. Et j'ai fait des pistes dans la boutique, 3 pistes par rapport aux équinoxes, l'équinoxe de 2012 et l'équinoxe de 2013, ce sont les énergies équilibrantes. Et quand on joue le tambour, cette date très, très vibratoire, avec les intentions, ça fait passer quelque chose dans l'enregistrement. Donc, c'est un tambour sol avec lequel, l'enregistrement tambour sol avec lequel vous pouvez tapoter sur vos propres phrases EFT. Donc, ça m'a été demandé l'année dernière après le congrès. J'ai mis ça en ligne sur le boutique. Donc, on va commencer avec un petit tapping, Moni, tu es
oui.
d'accord?
Oui. Alors, je ne vois pas beaucoup d'intentions dans le chat, mais il se rafraîchit là.
Oui.
Voilà, chacun peut se fixer sur une belle rencontre pour les célibataires qui le souhaitent, une magnifique vie en réconciliant le masculin et le féminin pour ceux qui préfèrent vivre seuls, des couples heureux pour les personnes qui sont en couple, etc.
Voilà, donc l'intention...
Je pense que vous devez avoir des phrases que vous rencontrez dans vos séances, René et Marc, que vous pourrez nous suggérer aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ah, alors, on bon? Peut prendre quelques minutes pour ça. Allons-y.
D'accord. Donc, on va se prendre conscience quand on forme, quand on est en ligne comme ça, on forme une entité énergétique. Et le tambour est le symbole de le cercle. Donc, imaginons qu'on est dans une énorme pièce de méditation en cercle. Et... tous assemblés ensemble avec nos énergies complètement différentes. Et on va poser nos intentions au milieu de ce cercle et je vais commencer le tambour pour qu'on lâche un peu le mental. Et ça, c'est le battement d'aigle qui fait monter les intentions. 180 à 200 battements par minute. Vous pouvez poser vos mains sur le cœur pour connecter avec ce tambour que vous avez dans la poitrine.
Je n'ai pas toujours conscience de ce que représentent mes intentions et la force qu'elles ont dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à moi. Je choisis d'accepter cette réalité et je choisis pour vivre cette réalité de communiquer avec moi-même profondément.
Même s'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de mes ancêtres, beaucoup de choses qui viennent de mon inconscient, qui fait en sorte que je vis les schémas répétitifs, je choisis de poser toutes ces énergies au milieu de cette cercle ce soir. Laisser l'univers dans son intelligence, opérer un nettoyage pour les générations passées, futures, pour que je vive ma présence pleinement. Sommet de la tête. J'ai fait partie de l'univers, en couple ou seul.
Même si j'oublie parfois que je suis connectée au tout. Je choisis d'avoir pour intention de participer à l'augmentation de la conscience
même si je me sens perdu des fois en tant qu'homme ou femme isolé des autres je choisis de prendre conscience que tout est lié je peux lâcher ma volonté de contrôler laisser l'univers, la partie de moi qui a toute l'intelligence, trouver des solutions.
Il y a une partie de moi qui sait que je fais partie de ce tout dont je ne suis pas séparée. Il y a une partie de moi qui ne veut pas savoir. Ça me paraît dangereux. Ça me paraît étrange. Je choisis de réunir ces deux parties de moi. Celle qui sait. Celle qui a peur, celle qui préfère s'accrocher à ses repères. Et en unissant ces deux parties de moi opposées, je choisis d'offrir ce moment-là à toute l'humanité, à tous ceux qui comme nous sont en chemin vers l'unité.
Et s'il n'y avait pas de barrière entre moi et les autres, et si je pouvais juste lâcher prise et laisser les énergies circuler, et si toute cette douleur dans mon corps des énergies qui ne circulaient plus. J'ai choisi de prendre conscience de tout ça. Ce n'est que de l'énergie qui demande à circuler librement. Et je peux aller dépasser le niveau zéro sur l'échelle de ressenti et toucher de pleine conscience la motivation, la gratitude, la paix, le bonheur, joie d'exister, même si je suis toute seule avec moi-même. Et si un jour, ma partenaire qui me convient arrive, je peux saisir cette occasion et libérer tous les blocages construits au fil des siècles. Gratitude pour mes ancêtres, cette puissance dans l'énergie des reins, m'a permis de dépasser les défis dans la vie et on se fait des cadeaux d'évolution. Gratitude pour le ciel, l'été qui finit par arriver avec la journée ensoleillée. Gratitude pour ce troisième congrès. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication. C'est le troisième congrès nous permet de construire des liens communautaires dans tous ceux qui pratiquent l'EFT, avec toutes leurs différences, toutes leurs spécificités, toute cette différence dans cette unité qui permet de donner plein de potentiel d'évolution et ce processus qui est beaucoup plus grand que nous. Gratitude pour l'univers qui nous entraîne vers cette guérison à travers les énergies. Surtout gratitude pour tous vous qui sont en ligne ce soir,
sommes tous liés.
Maintenant, je vous demande de remercier les énergies de l'Est, du soleil devant. On porte nos esprits vers le sud, vers le centre des écrits du monde, et on remercie les énergies du sud. Voilà, merci beaucoup Maria. Tu es là?
Oui, je suis là. Merci Marc. Ah.
Merci à vous tous.
Donc on est de tout cœur avec toute cette communauté EFT. Souvent après un tambour tapine, on laisse le silence un peu plus longtemps et c'est, les choses se manifestent pendant ce temps-là pour chacun et on reçoit des petits cadeaux. Donc, on aime bien faire des cadeaux, René et moi.
Merci, merci pour ce cadeau qui est passé par vous, même s'il vient à l'origine de l'univers, certes, mais vous avez été les facilitateurs de
oui,
ça.
On essaie d'être humbles serviteurs, laisser nos égos à côté, c'est pas toujours facile. Pour ça, heureusement, on est capable.
Super, merci. Nous allons nous retrouver demain soir. René et Marc et le tambour seront là de nouveau, n'est-ce pas?
Oui, absolument.
Avec
grand plaisir.
Super, merci.
Alors, au revoir à tous.
Au revoir Marc et René, merci. Merci beaucoup.
Au revoir.
Oh, merci beaucoup.
C'était un enregistrement du congrès virtuel francophone de EFT. Pour en savoir plus sur cet événement annuel, rendez-vous sur le site www.lecongrèseeft.com. À très bientôt!